Chapitre 54. Aux infos, on annonce qu'une tempête est actuellement en train de traverser Saint-Pétersbourg et que dans quelques jours à peine, elle atteindra la côte est de la Suède avec une force implacable. Le ciel est noir et l'air est tellement froid qu'exceptionnellement, Bernard fait demi-tour avant d'atteindre ses 10 000 pas quotidiens. Il a lu quelque part qu'il suffisait en réalité de 8 000 pas au total. Il est resté devant son ordinateur dans la cuisine pendant 6 heures, sans rien avaler d'autre qu'une tartine froide aux boulettes de viande, puis il a finalement enfilé sa veste d'hiver pour sortir. Il s'approche de la maison, franchit la grille et descend l'allée gravillonnée. Passé la porte, il allume dans l'entrée, enlève ses bottes et suspend sa veste à un crochet avant de retourner dans la cuisine. Il démarre l'ordinateur et relit ce qu'il a écrit juste avant de sortir. Un petit post-it rose est collé dans le coin supérieur de l'écran pour lui rappeler de finir sa colonne pour le quotidien Expressen. Ce type d'exercice est immédiatement relégué au rang de travaux superflus lorsqu'il est pris par l'inspiration pour un nouveau livre. Les interviews et les apparitions publiques lui apparaissent comme des obstacles. Il pose ses doigts sur les touches, mais est interrompu par des bruits venant de l'étage. Comme si quelqu'un traînait un micro-ondes sur le sol. Il regarde son téléphone, il n'a reçu aucun message. Agnetta lui a promis d'envoyer un texto lorsqu'elle serait sur le chemin du retour. Il frissonne en se dirigeant vers la bibliothèque, puis s'arrête au pied de l'escalier. Les bruits continuent, comme un glissement sur le sol. « Agnetta !» crie-t-il en commençant à monter les marches. Lorsqu'il arrive en haut, il regarde à travers la porte vitrée du couloir vers la chambre où dormait Hugo avant d'occuper la chambre d'amis. Il se retourne et voit que la petite porte étroite qui mène à l'escalier du grenier où se trouve son bureau est entrouverte. Tout est maintenant silencieux. Bernard entre dans la grande chambre. La lumière jaune du plafonnier éclaire le lit double. Elle n'est pas là. Il se tourne vers le couloir et entend un grésillement comme une mouche se cognant contre une fenêtre. Du coin de l'œil, il perçoit un mouvement rapide près de lui et ressent un choc, comme s'il avait reçu une balle de golf sur la tempe. Il tombe en renversant la lampe de chevet et atterrit violemment sur la hanche. La lumière clignote et tout devient noir. Des boîtes métalliques vides suspendues par des ficelles à l'arrière de la voiture de jeune marié roulent maintenant dans le couloir et descendent jusqu'à la bibliothèque. Il ferme les yeux et sent son cœur battre à tout rompre. Un martèlement douloureux lui vrille la tempe. Il touche son crâne. Pas de sang. Il tente de se relever, mais il est encore trop étourdi. Que s'est-il passé? Quelqu'un a traîné un micro-ondes sur le sol, l'a frappé fort à la tête, puis s'est enfui. Il remarque que ses pensées sont confuses. 5 boîtes métalliques vides, suspendues à des ficelles, pendent au cou d'une femme grise. Une balle de golf le frappe à la tempe. 2 chiens noirs courent à travers les pièces et descendent les escaliers. Quand il entend Agnetta crier son nom, Bernard ne sait pas s'il s'est endormi ou s'il s'est évanoui. Il pourrait aussi bien rester comme ça. L'effet dramatique serait encore meilleur, pense-t-il en souriant pour lui-même.
Bernard ?
Crie-t-elle en montant les escaliers. Ce n'est rien, chuchote-t-il. En le voyant par terre, Agnetta pousse un cri et se précipite vers lui. Il essaie de sourire et lève son pouce.
C'est ton cœur ?
Demande-t-elle. Non, je suis tombé.
« Tu es sûr que ce n'est pas ton cœur ? J'appelle le 112, »
dit-elle en cherchant nerveusement son téléphone dans son sac à main. « Ce n'est rien, » murmure-t-il en fermant les yeux un instant.
« Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ?»«
Du calme, » sourit-il. « Ce n'était qu'une balle de golf. Je l'ai reçue droit dans... » Agnetta compose le numéro, explique rapidement la situation à l'opérateur, que la porte d'entrée était ouverte, qu'il est allongé dans la chambre à l'étage.
« Il n'a pas de blessure visible, peut-être à la tempe. » « Il est assez rouge, mais ça ne saigne pas.
Il réagit, mais semble assez confus, » explique-t-elle. « Nous envoyons une ambulance, » répond l'opérateur. Agnetta regarde l'ambulance disparaître en haut de la colline. Puis elle rentre et ferme la porte à clé. Elle file directement dans la bibliothèque et s'assied sur les premières marches de l'escalier. Elle a juste envie de pleurer. Bernard a refusé qu'elle le suive dans l'ambulance. Mais il lui a demandé de lui apporter son ordinateur à l'hôpital au cas où il le garderait pour la nuit. Elle soupire, monte à l'étage, prend à droite dans le couloir vers la porte du grenier et gravit les 3 escaliers.
Mon Dieu ! Le bureau est sans dessus dessous. comme le pont d'un navire après un ouragan. La table est de travers, la chaise renversée. La lampe du bureau a été brisée et des papiers et des livres jonchent le sol. Tous les tiroirs du bureau ont été ouverts et vidés. L'armoire bleue de Yerfse est en pièces. La porte et le cadre ont été forcés avec un pied de biche ou une hache. Des morceaux de métal et des tiges de serrure gisent au milieu des débris de bois. Le manuscrit original de Bernard a été déchiré et piétiné, en même temps que des lettres, des dossiers, des photos, des contrats d'édition. Agnetta cherche l'ordinateur de Bernard au milieu des papiers, des classeurs, des carnets de notes remplis et des stylos. Elle déplace un lourd code pénal et trouve un paquet de vieilles lettres maintenues par un élastique brun. La première lettre de la pile est datée d'il y a 2 ans, en provenance de Québec. Elle prend délicatement le paquet et le pose sur le bureau. Soudain, la peur la submerge. Elle réalise qu'il pourrait s'agir de la tueuse en série. La veuve a lu l'interview dans Aftonbladet et est venue ici pour éliminer Hugo. Sonnée, Agnetta descend les marches du grenier, se dirige vers l'escalier en imaginant que la femme a frappé Bernard à la tempe du plat de sa hache avec le projet de le démembrer vivant. Peut-être que le bruit de sa Lexus sur le gravier l'a fait fuir. La porte d'entrée était grande ouverte quand Agnetta est arrivée. Bernard l'avait-il laissé déverrouiller? Agnetta s'arrête dans le couloir et tente de reprendre son souffle. La tueuse a pu entrer par la fenêtre de la chambre de Hugo la nuit dernière et ensuite... elle s'est cachée dans la maison jusqu'à ce soir. Elle doit se calmer. Ça ne peut pas être vrai. Malgré la tentative d'effraction, la fenêtre n'a pas été brisée. Agnetta regarde vers l'ancienne chambre de Hugo et sa salle de jeu, une partie de la maison où ils vont rarement ces derniers temps. Elle sent un courant d'air froid sur ses jambes. Ça doit être ouvert quelque part. Elle frissonne, en imaginant la tueuse pénétrer dans la maison par la porte qu'elle a dessinée sur le mur. Le cœur battant, elle commence à descendre vers la bibliothèque. Au bout de 8 marches, elle s'arrête et tend l'oreille. Le silence est tel qu'on peut entendre le câble fatigué du drapeau frappant le mât à l'extérieur. Elle doit savoir ce que Bernard a vu. Si la tueuse s'est introduite, elle doit immédiatement appeler Yuna et exiger une protection. Elle jette un œil derrière son épaule, continue à descendre et entre dans la cuisine. Elle est soulagée de voir l'ordinateur de Bernard sur la table. Dans l'armoire sous l'évier, elle attrape un spray nettoyant et une éponge, va dans l'entrée pour enfiler sa veste en cuir décolorée et une paire de bottes en caoutchouc verte. Il a recommencé à neiger et les traces de pneus de l'ambulance s'effacent peu à peu. Elle traverse l'allée gravillonnée, contourne la maison, s'arrête et regarde à travers la fenêtre de la chambre de Hugo, ses vêtements sur le sol et son lit défait. Elle continue le long du pignon et jette un œil vers le chalet d'été au bord du lac. Les îles et les îlots ont disparu sous la neige et la glace est recouverte d'un manteau blanc. Elle se dirige vers la porte peinte à la bombe sur le mur. Un grand rectangle avec un seuil, des charnières, une poignée et une serrure. Avec un malaise croissant, elle mouille l'éponge et commence à frotter. 20 minutes plus tard, lorsqu'elle s'arrête, ses doigts lui font mal à cause du froid. Elle laisse l'éponge et le spray nettoyant tomber au sol. La peinture a presque disparu, mais l'ombre du dessin apparaît encore, comme une porte de fumée. Agnetta se hâte de regagner la maison, s'assure qu'il n'y a ni neige ni humidité sur le sol de l'entrée et verrouille derrière elle. Elle prend son téléphone sur la commode et voit qu'elle a reçu un message de Bernard. Il écrit qu'il pourra rentrer demain, suivi de 3 cœurs rouges. Alors qu'elle se dirige vers la bibliothèque, elle essaie de le rappeler, mais il ne répond pas. Elle monte à l'étage et repense à la pile de lettres. Sans plan précis, elle continue jusqu'au grenier. Une boîte à cigares avec les vieux stylos de Bernard a été renversée. Prudemment, elle se fraye un chemin entre les livres et les papiers jusqu'au bureau, redresse le fauteuil, prend la pile de lettres. Elle s'assied, respire profondément et enlève l'élastique. En les parcourant, elle comprend qu'elles proviennent toutes de Claire, la mère de Hugo. Agnetta sait bien qu'il y a parfois eu des échanges entre Claire et son fils. Elle a toujours veillé à se tenir à distance de leur relation, mais elle sait qu'elle est douloureuse. Pendant toutes ces années, Bernard a dû entrer dans la chambre de Hugo, ramasser les lettres au sol ou les sortir de la poubelle, dans l'idée de les conserver, pour plus tard. Agnetta les lit dans l'ordre chronologique, commençant par les premières, après le déménagement à Québec, écrites à un petit enfant. Certaines, plus récentes, ont été froissées. L'une d'entre elles a été déchirée puis recollée avec du ruban adhésif. Peut-être que Hugo en avait assez des fausses excuses de sa mère et de ses mensonges incessants, disant qu'elle allait mieux, qu'elle suivait différents traitements, qu'elle avait décidé de devenir sobre. Ça doit être tellement difficile pour lui. Claire écrit qu'elle travaille comme traductrice et espère avoir assez d'argent pour retourner bientôt en Suède. Agnetta essuie une larme. Sa gorge se serre en pensant à cette relation, si triste. Puis elle prend la dernière lettre de la pile et lit. « Mon cher Hugo, mon fils bien-aimé, j'ai parlé avec papa au téléphone. Il dit que ça va bien pour toi à l'école et que tu as commencé à écrire, que tu es très talentueux, a wonder boy. Désolé de t'avoir déçu encore et d'avoir raté ton anniversaire, ça m'a brisé le cœur, mais la vérité, c'est que j'ai enfin trouvé une place dans un bon centre de soins en Ontario. J'étais en plein sevrage et je n'avais pas le droit d'avoir de contact avec le monde extérieur. Je suis sorti maintenant. J'ai un traitement à la méthadone, j'ai repris confiance en moi. Je travaille un peu dans une pépinière. Le plus difficile, c'est que mon superviseur dit que je dois rompre avec tout le monde pendant un certain temps, jusqu'à ce que je sois suffisamment forte pour revenir et tenter de réparer ce que j'ai détruit. Je vais me sentir très seul, mais j'ai acheté un chien, un husky sibérien, car ses yeux me rappellent les tiens. Plus bleu encore que le bleu turquoise des œufs de merle. Je t'aimerai toujours. Je pense à toi chaque jour. Câlin et bisous. Ta maman, Claire. Agnetta replie la feuille, remet l'élastique autour du paquet et se lève tout en pensant à sa conversation dans la voiture avec Hugo. Il est clair qu'il n'a pas lu cette lettre car ici, on comprend clairement qu'elle fait tout pour devenir sobre. Agnetta se sent mal d'avoir parfois méprisé Claire et sa dépendance. Elle pose la pile sur le bureau, regarde par la fenêtre en direction du lac et frissonne lorsque la lumière s'allume dans le chalet d'été.